chance qu'on sème. Bienvenue à Une chance qu'on sème. Je m'appelle Pierre Lecaude et je suis encore en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
Pierre-Antoine, épisode numéro 2 avec Denis Lafrance, parce qu'il y a de la placotte, puis dans le précédent épisode, ben, on a à peine eu le temps de parler de jardinage, ou à peu près pas. On a parlé juste de bio, c'était bien passionnant. Mais là, quand on a eu terminé l'enregistrement, vous l'avez bien remarqué, là, Denis, il fait comme, ben là, moi, j'étais venu ici pour parler de jardinage, j'aimerais ça parler de sol, puis je soupçonne de vraiment avoir le goût de plugger ses formations qu'il y a à vendre.
Ah non, mais c'est son dada aussi, la communication au-delà de l'agronomie. Puis je l'ai dit pour l'autre épisode avec lui, il pourrait en parler pendant 40 heures. C'est le seul prof que je connais qui s'est endormi en enseignant. Tu sais, c'est dire là, à quel point là, c'est un gars de métier. Là, tu sais, ça le passionne, ça l'anime. Fait que...
Toi, c'est l'inverse qui t'arrive, je pense, quand t'enseignes.
J'endors le monde.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est, là, je l'ai bien compris. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux?
Il y a quelque chose qui est capable de faire aussi, Denis, parce que là, bien sûr, les gens ne l'ont pas vu parce que c'est de l'audio, là, mais il y avait deux grosses bretelles rouges, là, puis il se les est pété quand même un peu dans l'épisode qui s'en vient. Là. Hey, attendez-vous à avoir là, de la fierté, là, de ce « je suis le seul au Québec à avoir un sol de même », puis mais en même temps, tu sais, je veux dire, il faut qu'il ait le plus beau sol au monde, c'est ça qui enseigne, c'est ça qui vend, là, fait que il est la preuve là, vivante que ses enseignants là, mène à quelque chose d'extraordinaire.
Ben, c'est ce qui l'anime et le passionne aussi. Puis, écoute, Denis, pour le connaître depuis longtemps, des fois, ça arrive qu'on a des petites prises de bec, mais il n'est pas rancunier. La seule fois où je l'ai vu rancunier dans sa vie, c'est quelqu'un qui avait scrappé un sol parce qu'il l'avait mal travaillé. Puis ça, je te jure, si je le repars là-dessus, là, il va encore m'en parler encore comme quoi que le gars, c'est un imbécile. Là. Fait que c'est sa passion. Il nous a parlé aussi beaucoup d'engrais verts. Et qu'on est peut-être pas dans la technique au niveau du jardinage, là, comment semer les carottes, puis c'était pas le but de toute façon de la saison 2, mais on va être un peu dans des dimensions connexes un peu, ou comment qu'on peut faire finalement pour améliorer nos sols. Puis ce que Denis dit, c'est que la base, c'est qu'il faut d'abord comprendre les sols, l'étudier, l'observer. Puis étant donné qu'on a surtout tendance à marcher dessus et non à prendre une pelle pour aller voir ce qui se passe en dessous, on en connaît très peu sur la science du sol, malheureusement.
Ouais, puis moi, je suis ressorti de cet enregistrement-là un peu comme à la fin de l'épisode avec Marie Thévard, mais surtout avec la lecture de son livre. Là, tu sais, je suis sorti de là avec le « OK, c'est bon, c'est parti, je m'en vais m'acheter du trèfle. »
Du vin de terre au dépanneur.
C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, ça a suscité là, mon intérêt à aller une coche plus loin là, dans ma recherche, parce que c'est ça que je voulais dire aussi. Denis, c'est un enseignant, mais c'est aussi un chercheur dans l'âme. Tu sais, on va l'entendre souvent dans l'épisode qui s'en vient. Là, il fait des tests, puis après ça, il met quelqu'un là-dessus, il collabore. Fait que, tu sais, c'est pas juste un passeur, c'est aussi un développeur.
Exact. Puis après ça, ben une fois qu'on développe des connaissances, faut les transmettre. Fait qu'il s'est vraiment intégré son approche puis son apport de l'agriculture bio en général au Québec est immense. Là, il y a eu la médaille d'honneur du Québec, c'est ça?
Bon, ben regarde, je te réponds pas, il va le dire dans l'épisode de toute façon.
C'est parfait. Fait qu'écoutez notre expert en agriculture biologique se péter un peu les bretelles, mais avec raison.
Mais avant, PA, on va écouter la présentation de nos précieux partenaires qu'on aime. Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on sème. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. J'ai beau avoir un grand jardin, je peux pas avoir la variété qu'il y a. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermierdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno. Là. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille, de Ottawa à Moncton, en passant par le lac Saint-Jean et l'Abitibi. La prochaine fois que tu vas en Abitibi, ben, t'arrêtes à Mont-Laurier pour acheter des crudités en route.
Ah, c'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde s'aime.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant. Ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras. Connais-tu ça?
Non. Ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal. 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu? C'est exactement ça. Ça a un SQDC de 332.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 332, c'est aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Non, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool.
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates.
Bon, moi, en 1955, mon père, il y avait de l'engrais vert dans le jardin chez nous. Fait que j'ai commencé ma carrière à m'intéresser au sol, j'avais 6 ans.
À 6 ans?
Ouais, c'est pas mal de mes premiers souvenirs là, de jardinage. Là, puis j'ai passé mon enfance dans le jardin, là. Jusqu'à temps que je m'en aille à l'université, puis là, ben, les discothèques ont remplacé, et la job d'été ont remplacé le jardin, là. Mais mon père, c'est un jardinier passionné et très compétent. Puis il m'a fait comprendre quelque chose qui est encore fondamental, c'est que cultiver, ça commence par le sol. Tu sais, les plantes qu'on cultive, ils poussent comme dans un... Je dirais dans un pôle entre comme l'influence du soleil et du climat, la lumière, etc., la photosynthèse, d'un côté. Puis de l'autre côté, bien, c'est le sol. Mais c'est influencé, le pôle qui arrive d'en haut, et c'est pas mal difficile. Puis on va être obligé de s'adapter au changement climatique, ouais, et ainsi de suite. Alors que le sol, c'est quelque chose qui est relativement tangible. On a 700 sols différents au Québec qui ont des défauts, des qualités... Et il faut un peu comprendre, là, puis à la limite, essayer de choisir un sol qui convient à ce qu'on veut faire. C'est rare, ça. Papillon ouais, monarque, on en voit plus, là.
Ben moi, dans les asclépiades à la maison, il y en a pas mal de ça. Bon. Les cultiver, mais tu dis, il y a 700 sols différents. Dans le fond, il faut faire avec leur qualité, faire avec leurs défauts. C'est un peu comme avec nos blondes, ça.
Ben moi, ouais, c'est ça. Puis changer les défauts de ton conjoint, c'est long.
Oui.
Un sol, c'est un petit peu moins long.
Ah, OK. Fait que, bonne nouvelle.
Mais donc, je suis allé dans le jardin, puis 5 minutes, puis je reviens avec 10 vers de terre. OK? Puis ça, mon père m'a enseigné ça. Mais il faut que ça mange, les vers. Donc, ça aime des matières organiques riches.
Ouais.
Ça aime le fumier. Ça aime des engrais verts. Un engrais vert, c'est une plante qu'on cultive comme pour nourrir le sol, pour retourner au sol. Et puis, donc, moi, je m'occupe bien des engrais verts, du sol et des vers de terre. J'enseigne les sols. Quelqu'un veut commencer à faire de l'agriculture, commence par un bon cours de sol. OK? Après ça, ben, peut-être un bon cours de gestion de mauvaises herbes. C'est un peu les deux...
La base.
Les deux choses de base à régler. Si tu échappes les mauvaises herbes, tu seras prêt à cultiver. Puis si tu es prêt à gérer ton sol comme du monde, tu vas être de la misère. Fait que, donc... et puis, j'ai toujours considéré comme le sol, c'était vraiment le départ. Puis le sol... Léonard de Vinci a dit « On connaît mieux les étoiles que les sols. » Puis c'est encore vrai. À peu près 500 ans plus tard. Là. Et les sols, il y a eu un essor dans l'étude sur la vie des sols depuis à peu près 25 ans, avec des méthodes de qu'on appelle métagénomiques. Là, c'est des méthodes d'études génétiques sophistiquées. Il y a toutes sortes de
De l'ADN, ouais, des êtres vivants dans le sol.
C'est ça, là. Donc, on a développé des nouvelles méthodes, mais souvent on identifie plein d'organismes, mais on ne sait pas ce qu'ils font nécessairement. Tu sais, on est capable de les identifier, on est capable de les caractériser, mais après ça, l'étape suivante, c'est de dire, ben, qu'est-ce que ça fait dans l'écosystème, qu'est-ce que ça fait dans ce qu'on appelle le microbiome. Je dirais qu'il y a un essor du travail scientifique. Je suis bien content de voir qu'il y a comme Passablement de moyens qui vont à soutenir ce genre de recherche-là. Puis c'est là qu'il faut aller. Parce que le sol, c'est un milieu vivant. Là, dans un gramme de sol, tu peux avoir des milliers, tu peux avoir un million d'espèces différentes de bactéries. Là. Ils sont pas toutes, il y en a pas toutes, ils sont pas toutes dans la même abondance. Mais tu sais, t'as des dizaines de milliers d'espèces de bactéries. T'as des moins de champignons. Là. Les bactéries, c'est sûr qu'ils dominent. Il y a des archées, on commence à utiliser les virus qui vont plutôt comme attaquer les bactéries. Ensuite, ben, il y a comme plein d'animaux qui sont moins diversifiés, mais il y a une très, très grande biodiversité qu'on connaît peu, qu'on a peu étudié. Le ver, c'est un animal un peu plus étudié, mais il n'y a pas grand monde qui fait de la recherche sur les vers au Québec. Là. Il y a quelques petites affaires qui se font par-ci, par-là. Là. Mais pas grand-chose. Puis... puis si on veut réussir en culture biologique, il faut vraiment étudier, bien connaître les sols, puis savoir comment s'y prendre. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je suis un peu allergique au discours, là, comme c'est moi qui a la manière, là, puis c'est comme il y a ça, c'est la bonne façon. Puis il y a plusieurs façons de faire. Tu peux développer des approches différentes, puis bien réussir, mais il y a quand même des choses qui sont comme fondamentales. Donc, les êtres vivants se nourrissent à partir des restes des autres êtres vivants. Donc, la majorité des êtres vivants du sol sont nourris par des substances qui leur proviennent d'autres êtres vivants, soit des restes, des matières organiques notamment. Ici, j'ai quelques plantes cultivées en engrais vert. Donc, par exemple, ici, j'ai une graminée qui s'appelle... de l'herbe du Soudan.
Qui ressemble au plus gros chien dent que j'ai jamais vu.
Oui. Bien, le chien dent, c'est une graminée aussi.
Ou un petit plant de maïs.
Ici, j'ai un petit puis un gros tournesol. Puis ici, j'ai une févrole qui est une légumineuse.
Qui est dans la famille du pois, là, c'est ça?
Oui. Donc, les pois, la luzerne, le trèfle, la veste. Donc, ce sont des légumineuses. Ces plantes-là, ce qui est particulier, est-ce que tu vois les petites boules sur les racines?
Oui.
Donc, la plante, ça met à envoyer des signaux, puis il y a comme à l'autre bout, tu as comme un microbe qui envoie des signaux, puis quand il se trouve, bien, le microbe, il vient s'installer, il rentre dans les tissus de la plante, puis là, bien, il s'installe, puis la plante bâtit ce qu'on appelle un nodule. Ce microbe-là est capable de prendre l'azote de l'air puis d'enrichir le plan d'azote de façon à ce qu'il puisse être très, très riche en protéines. Fait que si tu veux manger des protéines végétales, tu vas manger des légumineuses, qui sont les plantes qui te donnent le plus de protéines. Puis si tu veux manger de la viande, tu vas prendre du trèfle, tu vas te donner à manger à des vaches qui vont élaborer de la viande à partir des protéines végétales des légumineuses. Puis ça, bien, ça se fait... l'azote provient de l'air. Toi et moi, on n'est pas capable de prendre notre azote dans l'air puis de faire des protéines avec, puis les animaux non plus. OK? Donc, il y a d'autres plantes qui sont capables de faire quelques-uns, comme les aunes avec des actinomycètes ou actinobactéries. Mais le principal organisme qui fait ça, ce sont différents rhizobiums. Il y a d'autres bactéries libres qui font la même chose sans être associées avec les plantes. Mais ces organismes-là, ils ont besoin de recevoir d'énergie. La plante, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait de l'énergie avec la photosynthèse, elle produit du sucre, elle envoie du sucre à la bactérie. La bactérie, elle prend de l'azote, elle retourne de quoi faire des protéines. On appelle ça une symbiose, comme une association entre deux êtres vivants. Puis, au-delà de cet exemple-là qui est un peu plus spectaculaire, mais tous les êtres vivants, un être humain, là, c'est une personne, puis des milliers d'espèces de microbes.
À l'intérieur de cette personne-là.
Pas rien qu'à l'intérieur, ça a peau partout. Tu frenches ta blonde, je te dis pas comment que t'en ramasses, puis tu t'embrasses ta blonde dans le cou, puis tu sais pas combien de microphone que tu ramasses, puis tu sais, c'est comme... On est couvert d'être vivant, là.
Elle non plus, elle sait pas ça.
Oui, mais c'est ça, puis on peut pas vivre sans cette association-là. Tous les êtres vivants dans la nature sont comme en association avec une foule d'autres êtres vivants. Pis c'est ça, l'agriculture biologique. c'est de gérer des systèmes vivants au lieu de tout tuer. C'est de supporter la vie de la façon la plus équilibrée possible. Puis tu commences par le sol parce que le premier endroit où la plante a besoin de plus de support, ils ont ce qu'on appelle la phyllosphère. Il y a comme plein de microbes sur les feuilles qui aident à protéger le plant. Mais le premier support, ça se passe dans le sol. Avec des microbes qui sont principalement bactéries, archées, qu'on commence à mieux connaître, champignons, et ce qu'on appelle des protistes. Là, il y a comme, en tout cas, c'est une, à tous les 10-15 ans, les scientifiques changent un peu la classification, tout ça. Là, mais en tout cas, protistes, protozoaires. Après ça, tu rentres dans les animaux comme nématodes. Tout le monde battrait ces nématodes parce qu'il y a 3-4 espèces nuisibles. Mais il y a des centaines d'espèces utiles. Là. Les nématodes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des bactéries, ils chient aux racines, puis les racines se nourrissent de fumier de nématodes qui ont mangé des bactéries et des champignons. Puis tu as tout un écosystème qui se crée dans le sol en support aux plantes. Puis ça, il faut le comprendre, il faut le connaître, puis il faut travailler à l'aménager.
En t'écoutant, je me demandais si moi qui ai un tout petit jardin... je me disais, j'ai pas besoin de faire de l'engrais vert, moi, parce que je rajoute du compost, tout ça. Mais là, tu viens de me
dire... Ça n'a pas la même fonction.
Là, l'engrais vert, lui, il va amener la bactérie, il va amener...
Ça n'a pas la même fonction. Fait que moi, je travaille avec du compost et de l'engrais vert. Puis même si je fais des légumes partout, à la fin de l'année, je vais avoir 80 % d'engrais vert que je vais comme semer entre mes légumes, que je vais semer après la récolte de légumes. Même après la récolte de patates, le 10 octobre, je vais encore semer de l'engrais vert. Ça va venir rien que le lendemain. Mais ça agit. Puis ça joue un rôle que si tu ne le mets pas, bien, la fonction n'est pas là, là.
Un rôle d'entretenir l'écosystème.
Un rôle de contribuer à l'écosystème. Notamment, les plantes qui poussent injectent à peu près... 15 à 25 % de la photosynthèse qui est injectée dans le sol en dehors de leur tissu pour nourrir des microbes dans ce qu'on appelle la rhizosphère. Donc, il parlait de mon livre de rhizosphère. Là. La rhizosphère, c'est une zone de très grande proximité des racines. Tu regardes la racine, tu ne vois pas la racine. Elle est complètement enrobée de terre, cette racine-là. OK? Donc, tous ces sucres-là et tous ces exsuda nourrissent des microbes qui fait que ce milieu-là devient hyperactif biologiquement. Puis c'est la zone des échanges entre la plante et le sol. Puis regarde ici, là, tu ne vois pas les dessus, là, il y a comme une petite gaine de terre. Là. Partout, ouais. Partout sur ces racines-là, tu as une gaine de terre.
On pourrait dire que la racine est sale.
Oui, bien, parce qu'elle est entourée de terre qui lui colle après. Notamment parce qu'il y a comme des substances sucrées ou en tout cas des beaucoup riches en hydrates de carbone. OK? Même une légumineuse injecte de l'azote et des protéines dans le sol. Là. Donc, il y a comme. C'est un milieu là, qu'on commence à découvrir. Puis il va falloir changer. C'est pour ça que je te disais, si on travaille comme. Dans 200-300 ans, là, ils vont dire, le 20e siècle, là, ils ont pris une chute. Ils ont comme un peu échappé. Ils n'ont pas compris. Là, donc, on travaille pour instaurer des façons de cultiver qui sont basées sur le fonctionnement naturel des êtres vivants dans le milieu naturel. Là, fait que c'est comme ça que les choses se font. Il faut comprendre comment les choses se font. Avec les engrais chimiques puis tous ces produits-là, on court-circuite les phénomènes naturels. Puis ça a été inventé au 19e siècle par Liebig, là, ça a comme dominé. Puis finalement, ben, tu sais, pour essayer de soutenir le développement d'êtres vivants dans un milieu naturel, ben, on va à l'encontre des lois de la nature. Puis donc, il faut aller dans le sens des lois de la nature. Fait que le sens des lois de la nature, ben, ça prend des vers de terre. Malheureusement, au Québec, il n'y avait pas de vers de terre, puis c'est sûr que si tu t'en vas dans des écosystèmes qui ont évolué depuis la glaciation, depuis 10 000 ans sans vers de terre,
puis que tu introduis des vers de terre, ça peut comme déranger le fonctionnement de ces écosystèmes-là. Mais les systèmes agricoles, ce sont des systèmes développés par les Occidentaux depuis 10 000 ans. Ça a commencé en Mésopotamie, en Inde, etc. Ça a migré vers l'Europe. Et c'est pas des, ce sont des systèmes naturels artificiels. Donc, il faut les faire fonctionner de façon artificielle parce qu'on exporte massivement de la nourriture pour des êtres humains. C'est pas comme un écosystème sauvage où tout retourne un peu en circuit fermé. Donc, c'est extrêmement ouvert. Donc, ça prend des intrants, puis ça prend comme des interventions humaines et des supports. Mais le ver de terre suit l'agriculture partout dans le monde. Là. Donc, il n'y a pas... c'est sûr que ça peut avoir des effets nocifs par quelques-uns de, leurs effets, mais je dirais en général, les effets de ces animaux-là sont extrêmement positifs.
Donc, en milieu naturel, dans un écosystème forestier, c'est même recommandé de ne pas laisser les vers pour quelqu'un qui va pêcher.
Oui, c'est ça. C'est un des problèmes des milieux forestiers, c'est les pêcheurs qui jettent le restant de vers.
Ben, Denis, on est fin de l'été, l'automne va s'en venir. Je regarde ton jardin, il y a beaucoup d'engrais verts un peu partout, dans des planches normalement qui auraient pu être destinées à faire des carottes ou des laitues. Puis ces parcelles-là où il y a des engrais verts, c'est full, là, comme si tu jouais un peu à reproduire la nature. Parce que la nature, elle veut pas faire à l'horreur du vide. Là. Elle fait pas des rangs là, parfaits qui nous facilitent le désherbage puis la récolte de ces forêts. Là. À part quand on replante une forêt. Fait que, parle-nous un peu de tes engrais verts, justement, au jardin. Là.
Moi, j'ai toujours fait des engrais verts depuis mon enfance. On peut en mettre comme une année complète, même plus qu'une année en rotation. Il y a des agriculteurs qui font ça, notamment des maraîchers. Mm-hmm. Il y a peut-être un peu moins d'engrais verts dans les fermes de grande culture. En tout cas, ils ont d'autres façons de l'intégrer. On peut en semer entre des cultures établies. Par exemple, là, en deuxième partie de saison, je sème des engrais verts, je finis mes récoltes, ça continue à pousser quand les récoltes sont terminées.
Donc, tu viens mettre des semences au travers de tes cultures ouais. qui sont déjà implantées.
Oui.
OK.
Par exemple, là, j'ai semé du trèfle incarnat dans des, par exemple, des chouraves. Les chouraves sont gros comme ça.
Ouais. Gros comme une balle de tennis.
OK. Dans deux semaines, ils vont être gros comme ça, prêts à récolter. Puis, il y en a d'autres qui vont être prêts à récolter dans un mois. Puis, ben c'est pas bien grave. Là. Le chou-rave va gros comme ça, puis le trèfle va être rendu ça d'eau. Là.
Il nuit pas, le trèfle, au chou-rave?
Non, parce que le chou-rave, il est comme en fin... Il a pris son avance. Là. Mais ça... moi, je sais ce que je fais, là, tu sais. Donc, il faut savoir quand. Si tu fais ça comme 3 semaines plus le bonheur, ça se dit pas à la radio, là, mais tu te rentres le doigt dans le nez jusqu'au coude, là, tu sais. Donc...
Parce que notez, chers auditeurs, qu'il vient vraiment de le faire, là. Je voyais plus le coude, là.
Fait que, donc tu sais, faut connaître le timing, OK? Moi, j'enseigne ça depuis 45 ans, là. Fait que, donc faut savoir que, parce que tu peux faire des erreurs. Puis, tu sais, j'ai à peu près 60 ans d'expérience de jardinage, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Fait que, tu sais, RRE ou Mano Maïs, ben c'est ça. Conseillez-vous, les gars, là, il faut probablement en faire encore sur mon lit de mort. Là.
Fait que, arrivé, moi.
Hein?
Ça m'est pas encore arrivé, moi.
Ouais, c'est ça.
C'est ben, parce que tu t'en rends pas compte.
À force de parler avec vous autres, peut-être que je vais en faire une ou deux.
Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a... Ma femme, j'essaie de la convaincre, je comprends que je suis parfait, mais je sais pas pourquoi, mais elle n'est pas d'accord.
Ah. OK, fait que mettre l'engrais vert, mettons, faut pas que tu le mettes au début, bien sûr, parce ouais, que là, il va dominer ta carotte.
C'est ça, faut pas qu'il y ait de compétition. Surtout quand tu mets ça associé dans une autre culture, c'est plus délicat.
C'est plus tricky.
Si j'ai comme une année complète que je dis, là, ici, je mets juste des engrais verts, après ça, à l'automne, je couche ça, je mets un plastique dessus, l'année d'après, je laisse ça décomposer, puis je plante mes légumes à travers des trous dans le plastique. OK, ça, c'est une méthode que j'explore depuis 5-6 ans, là. 5-6-7 ans, à
puis
peu près.
Puis quand tu
là.
Dis que tu le coupes, tu le coupes...
Je le couche.
Quand je dis, ouais, quand tu dis que tu le couches, c'est tu le coupes ou tu fais juste l'écraser, attends?
Bien, ça dépend c'est quoi, là. Peut-être que le gros... l'herbe du Soudan qui est là-bas, qui arrive à 3 mètres, là, je vais peut-être le couper parce que là, si je le couche, il va être dans la partie à la côté. Là.
Parce que lui, il est énorme, mais le tournesol t'a sorti, l'autre herbe Soudan aussi, on est comme à 4 pieds de haut.
Oui, mais c'est... ça, j'ai semé ça, vois-tu, après ma récolte de Meslin.
OK.
Fait que, puis en plus, cette année, j'ai fait 3 récoltes de Messelin. Normalement, j'en fais 2, puis cette année, le climat était propice, il est resté beau. J'ai fait 3 récoltes de Messelin.
Fait qu'on parle de début juillet, à peu près?
À peu près.
OK.
Ouais, peut-être un petit peu passé de début juillet, puis tu sais, c'est rendu à peu près 5 pieds de long, là. OK.
Parce que là, tu as parlé des engrais verts qu'on va faire toute une année complète, de ceux qu'on va mettre comme entre nos cultures.
Ou dérober après une récolte plus de bonheur. Fait que tu sais, il y a plusieurs façons. Là. Tu peux le laisser une année complète, tu peux le mettre en intercalaire entre des cultures, ou tu peux le mettre après une récolte
après
principale.
L'ail, mettons, après avoir récolté mon ail.
C'est ça.
Qui est le plus simple à réussir.
C'est ça. L'ail, c'est récolté au mois de juillet, fait que j'ai comme en plein temps pour faire un très bel engraveur de fin de saison.
OK. Bien, moi, je vais te le donner avec mon regard un peu plus agronomique, là. T'as des engraveurs assez poussés.
Non, non, mais j'essaie tout ça d'affaires complètement flyé. Ben, à un moment donné, j'arrive à l'ouvrage, je dis, hey, là, ça marche, puis ça a du potentiel, on fait un projet de recherche.
Ouais.
Tu sais, moi, j'ai cultivé 65 espèces en engraveurs. Oui. Là, tu peux faire des mélanges avec ça. Fait que c'est comme. C'est infini ce que tu peux faire comme mélange.
Mais là, PA, moi, j'aimerais que tu ailles au bout de ton idée. Là, ouais. Tu considères en tant qu'agronome que c'est pas bon là, d'avoir un plan
non,
comme
non,
ça?
Non, 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 c'est pas ça que je dis. C'est que Denis, il est comme au niveau Jedi, tu sais.
Okay.
Puis toi, t'es vraiment le Padawan, là. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui écoutent le podcast, là. Mais c'est quoi que Denis aurait suggéré à quelqu'un, un néophyte, mettons, qui veut faire ses premiers pas dans la direction des engrais verts? Parce qu'il a catché que d'avoir un sol vivant, un bon sol, c'est un plus pour ses plantes. Tu sais, t'as quand même des trucs de
moi,
base.
Moi, ce que je dirais, c'est un bon cours de 12 heures avec Denis Lafrance en hiver.
On peut-tu régler pour 12 minutes?
La stratégie générale, je viens de la présenter, là.
Ouais.
Pleine saison.
Ouais.
Culture dérobée avant une culture principale, des fois, surtout après une culture principale, qui occupe pas le jardin toute l'année. Intercalaire. Fait que ça, je dirais que c'est les 3 grandes stratégies. Il y a des stratégies aussi en grande culture et dans les céréales. Je ne rentrerai pas ça ici parce que vous vous adressez pas à des gens qui cultivent des céréales. Puis après ça, ben moi, dans mon cours de 12 heures, à un moment donné, je passe 20 % du temps à donner des exemples où ça envoie l'innovation.
Ouais.
Fait que là, il y a plein de monde qui essaye plein de nouvelles façons de faire, complètement flyées. Puis donc, qui essaye plein d'innovations. Pas nécessairement des choses qui vont faire leur place, que peut-être que ça va disparaître. Fait que, puis on fait des essais au CETAB, puis, ouais. Puis c'est ça. Mais c'est le genre de choses que je fais ici. Mais,
fait que là, moi, j'ai une planche que je sais que je vais planter des poivrons. Puis là, le sol vient de dégeler. Fait qu'il me reste 2 mois là, avant que je mette mes poivrons dans le sol. Je mets quoi comme engrais vert à cette place-là?
Je te dirais, des poivrons, c'est un peu serré pour faire un engrais vert de début de saison. Fait que si tu avais été capable, tu aurais pu, l'automne avant, semer de la vesvelue, qui est un annuel d'hiver qui va repousser au printemps. Fait que elle, tu l'as parce que des poivrons, moi, je plante pas ça 2 mois après un mois et demi après le dégel. Là, des poivrons, moi, je plante ça vers le 20 avec une protection en plasticulture. Je plante ça à peu près vers le 20 mai. Fait que je te dirais, là, faudrait que tu ailles comme une plante. À la limite, tu fais ton engraveur l'automne avant, puis tu le détruis au printemps, puis tu prépares ton sol pour tes poivrons.
Quelle espèce d'abord va me permettre de faire de l'engrais avant de l'implanter?
Mettons des choses que tu plantes le 15 juin.
Les tomates.
Les tomates, je les plante le 20 mai, moi. Là. Ben,
voyons donc, PA, il me dit tout le temps de ne pas faire ça.
Ouais,
moi, je vais t'appeler toi.
Ouais, ben, moi, mes tomates, je mets un abri par-dessus pour les protéger contre le froid.
En plastique?
Oui. Ben,
ça ne te protège pas du gel, ça?
L'année passée, je les ai perdus. 3 fois dans ma vie. Trois fois en 45 ans, à peu près, c'est pas si pire.
Ben là, c'est quand même assez grave parce que là, tu le dis à radio.
Ouais, mais c'est parce qu'il y a déjà. Moi, j'ai déjà un maraîcher, là, un professionnel. Tu sais, là, il y a comme un concept qu'on appelle la culture de primeur. J'ai déjà un maraîcher qui disait si tu perds jamais rien, c'est parce que tu commences pas à être bonheur. Parce que normalement, la culture de primeur, ça se vend plus cher. Fait que, puis moi, ben les tomates, je plante pas ça le 1er mai, là, ici. On est quand même à un endroit où il y a les dernières gelées le 20 mai, puis des fois le 1er juin, puis ou le 27 mai, ou mais tu sais, ça arrive une fois à tous les 10 ans, là. Fait que, donc ici, là, dans la région, en 30 ans, j'ai perdu mes tomates 2 fois. Bon.
C'est quand même bon, ça.
C'est pas si pire. Puis je les plante toujours le 20 mai, à peu près, là. Ça fait que 18-20 mai dans ces dates-là, mais je mets un plastique dessus. Puis après ça, ben s'il annonce un gros gel, je vais rajouter une bâche par-dessus. Mais l'année passée, j'étais au chalet. Fait que, puis je l'ai échappé.
C'est ça, faut jamais être trop loin. Je vais essayer de sauver Pierre-Luc avec sa question.
Merci.
Deux scénarios. Premier scénario, tu récoltes ton ail. On sait que c'est tôt là, pendant l'été, il te reste quand même une belle saison à faire, puis tu veux pas réimplanter autre chose. Tu sais, quel engrais vert il.
Moi, je vois plus que ça. Quand j'enlève les feuilles d'ail, je sème de la veste velue.
Ah ouais, au travers.
Intercalaire.
OK.
Fait que quand j'arrache l'ail, la veste velue est déjà longue de même.
OK.
OK. Puis elle continue à pousser parce que j'en dérange 30 %, puis l'autre 70 % continue à pousser, ça vient touffu, ça couvre le sol. Parti, à ça, c'est, je sème ça à peu près le 30 juin.
Okay.
Donc, c'est à peu près trois semaines avant récolte, dépendant de la récolte de l'année. Je récolte vers le 15, 18, 20 juillet à peu près.
Parfait.
OK? Fait que donc, mais je pourrais aussi enlever l'ail puis semer après la récolte le 20 juillet.
Oui, ça me reste. Là,
si je veux beaucoup d'azote, je pourrais semer, par exemple, un pois fourrager. La variété 40-10 a été démontrée aux étables comme étant la plus productive. Ça va pousser jusqu'au mois d'octobre. Puis, ça va me donner 250-300 kg d'azote à l'hectare. Là. Ça, c'est comme la méthode, c'est comme la surface de référence en agriculture. Là. Donc, c'est comme une très... C'est plus que les besoins de ton... Fait que là, t'as pas besoin de beaucoup de compost pour ton...
Plus besoin de pisser dans ton jardin.
Non. Si tu prends des médicaments, tu veux plus pisser dans l'herbe que dans le jardin.
Ou dans l'engrais vert. Ah non, tu peux pas.
Rendu à mon âge, tu pisses dans l'herbe.
Bon, hey, deuxième scénario, là. Tes pommes de terre sont pas mal fanées, là. Ils sont après durcir la peau, là.
Oui, les pommes de terre sont en fin de culture.
Bon, tu peux te mettre un engrais vert après, là, si t'es sort bientôt, là.
Ben non, parce que la pomme de terre, c'est à peu près l'affaire que tu brasses le plus la terre.
Ah, câline, aide-moi, Pierre-Luc, vous ferez trouver un autre scénario.
Donc, la pomme de terre, c'est une plante que c'est un tubercule qui pousse en surface. Si on le laisse au soleil, ça vient vert, c'est toxique pour les humains. Mm-hmm. Donc, on est obligé de le couvrir généralement avec de la terre. Il y a des gens qui vont le couvrir avec des matières végétales, mm-hmm. mais généralement, on le couvre avec la terre en production industrielle. Mais quand on récolte, il faut sortir ça de la terre puis on brasse la terre. Donc là, comme je ramasse ça, mettons, je dirais le 5, 8, 10 septembre, pas mal, toutes mes feuilles sont mortes.
Ouais.
Je le laisse un mois. Si j'étais un gros producteur de pommes de terre avec des entrepôts puis de la machinerie, ben je la rentrerais puis je la mettrais en entrepôt. Ici, mon caveau est pas prêt. Fait que donc, je la laisse dans le sol jusqu'à peu près le 10 octobre. Donc là, la peau va finir de se durcir, de s'épaissir. Puis donc, au 10 octobre, je brasse la terre pour sortir mes patates. Je vais semer une céréale qui va venir longue comme ça.
Bon.
C'est pas une place où je peux faire des engrais verts, mettons, intercalaires. Mais mon chou rave, je peux juste prendre un sécateur puis le couper au ras du sol puis laisser les racines là.
Puis là, tu touches pas à l'engrais vert.
Puis là, j'ai semé, mon engrais vert, il est semé, puis je vais commencer à récolter ces choux raves-là peut-être dans 10 jours.
Okay.
Puis je vais en récolter peut-être encore pendant un mois. Puis je vais juste prendre un sécateur, couper la tige au ras du sol, laisser les racines sur place. Fait que l'engrais vert continue à pousser, puis lui, il pousse jusqu'à Noël s'il fait doux. Si, au mois de décembre, s'il pleut, l'engrais vert continue à pousser. Là. Fait qu'il y a des années qu'on a des automnes doux. Puis ça gèle quand tu as de la glace au mois de février. Là, si ta neige à fond au mois de février, ton engrais vert est exposé, là, il gèle.
Ouais.
Fait que donc, ce sont des plantes tolérantes au froid, comme de la veste velue, de la veste commune, du trèfle incarnat. Le pois va geler avant ça.
Ouais.
Mais ces autres plantes-là, c'est des plantes qui vont pousser super tard. La veste velue, je peux même la semer, mettons, le 10 septembre. Puis, au printemps, elle va repousser jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Je la détruis pour planter mes choux du mois de juillet, wow. Puis mes brocolis du mois de juillet, puis mes choux-fleurs du mois de juillet pour la fin de saison, ou mes choux-raves de fin de saison. Fait que là, je peux avoir comme un engrais vert qui va comme que je vais semer la première année, qui va pousser le printemps suivant, avant une implantation tardive. Mais tu sais, les tomates puis tout ça, c'est comme t'es trop serré.
C'est tardif.
T'es trop serré.
Ouais. Tu utilises des vivaces là, qui passent l'hiver, tandis que beaucoup de gens...
Non, c'est un annuel d'hiver.
OK.
Donc, c'est un annuel que si tu la sèmes au printemps, elle meurt à l'hiver. Puis si tu la sèmes à l'automne, elle passe l'hiver puis elle finit de pousser l'année suivante. Donc, c'est une plante qui est tolérante au froid de l'hiver. Rendue au mois d'octobre, elle est finie. Là.
Elle ne passera pas l'hiver.
Non, elle ne passera pas l'hiver. Fait qu'il faut qu'elle soit jeune pour passer l'hiver.
OK, bon, puis maintenant, il reste l'intercalaire. Quand est-ce que je sais que mon chourave, il peut supporter de se faire déranger?
Je suis des cours avec Denis Lafrance.
ça, c'est ses cours d'agriculteur.
Il est vendeur, en plus.
Mon père, là, dans la crise, là, il vendait des écrémeuses.
Des écrémeuses?
Oui, tout le monde faisait de l'autosuffisance, il faisait le beurre, puis il vendait du beurre, puis il y avait quelques vaches, puis des écrémeuses pour le lait, là. Puis il a eu bien de la misère avant vendre parce que son père, il avait tellement vendu avant lui que quand il a ramassé la run à son père, tout le monde l'avait acheté de son père. J'ai comme une lignée de vendeurs en arrière de moi. Tu sais, mon père, à 10 ans, il m'a dit, tu prends ton bicycle, tu vas cogner au pot, tu vas vendre des cocons puis des framboises. Fait que j'avais 10 ans, fait qu'il m'a monté. Parce que cultiver des légumes, là, c'est bien beau, là. Mais ça prend deux métiers. Faut que tu les cultives, après ça, faut que tu les vendes. Fait que des groseilliers, je suis sûr qu'ils sont deux. Un qui est sur le chiffre de nuit comme vendeur, puis un qui cultive dans le champ. Puis c'est le modèle typique de quelqu'un qui cultive des légumes au Québec. Ça prend deux personnes avec les deux fonctions. Fait que quand tu enseignes à quelqu'un à cultiver, il faut que tu montes à vendre parce que sans ça, l'argent rentre juste quand tu vends, pas quand tu cultives.
Méchante logistique. Ce qu'on n'a pas comme contrainte au jardin, là.
Ah, c'est ça.
Bon, hey, là, on était quand même assez poussé, là, tu sais, des plantes qui survivent à l'hiver et tout, mais tu as parlé de céréales. C'est quoi ta céréale de prédilection comme engrais vert que tu utilises, là?
Ben, je dirais, j'ai essayé plusieurs céréales. Mon père est un gros utilisateur de seigle. Fait que le seigle, c'est un peu comme la veste. C'est un annuel d'hiver. Donc, le seigle d'automne. Tu sèmes ça au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Ça, plus tu le sèmes tard, moins qu'il va être beau l'année d'après, mais quand même, c'est capable de passer. On a déjà semé au mois de novembre pour tester, là. Puis il a passé l'hiver. Il n'était pas bien beau l'année d'après, mais il a survécu à l'hiver. Fait que donc, mais normalement, tu sèmes ça en septembre ou en août, quelque chose comme ça. Ça peut se semer au printemps aussi.
Ouais.
Et là, un seigle qui a passé l'hiver, l'année d'après, il fleurit, il fait des grains, il fait de la paille. Mais un seigle que tu sèmes au printemps, ça reste végétatif, c'est très pratique. Fait que ça te fait comme une céréale. Ça étouffe bien les mauvaises herbes. Fait que donc, mais gérer du seigle au printemps, ça prend comme des équipements. Là. Faire ça en main, des gros engrais verts de printemps, bien souvent ce que je fais, je l'enlève, je le mets dans le compost. C'est comme trop de trouble faire ça en main.
Okay.
Ce que j'ai commencé à faire depuis 5-6 ans, c'est plutôt de dire les couvrir puis cultiver sans travail de sol. Mais ça, là, c'est expérimental. Puis cette année, là, j'ai eu bien de la misère.
Tu les couvres avec un plastique, tu fais des trous dans ton plastique, puis tu plantes dans les
Exactement.
Trous.
Okay.
Parce que t'as pas de motoculteur ou de rotoculteur.
Non, j'en ai eu un, mais ça doit faire au moins 20 ans qu'il n'y a pas eu de motoculteur dans le jardin.
En poussière dans
Moi, je travaille avec une fourche et une gralinette.
Okay.
Puis beaucoup de paillis. Je vois ton tas de paillis là-bas.
Ouais, bien, je mets pas ça dans les légumes. J'ai essayé cette année les patates, puis j'avais du... des copeaux d'élagage qui étaient 4 ans, là, puis je me disais, ils sont assez décomposés, ça ne dérangerait pas, j'ai une carence d'azote. Là.
Ah ouais.
C'est mets pas ça dans les légumes, c'est risqué.
C'est quoi tu utilises comme paillis alors?
Du plastique.
Ah, oh, je vais couper ça au montage.
Ben c'est ça, c'est plastic is the organic farmer's dirty little secret.
Ouais, ouais.
Tu sais, on met des filets anti-insectes en plastique. T'as-tu vu les melons?
Non.
OK, moi, je sors 30 melons sur 3 buts de melons. Là.
La légende a dit que tu fais 40 000 melons à l'hectare. Ça, mes élèves me l'ont dit souvent.
Oui, bien, c'est ça. C'est pas la légende, là. Je l'ai compté, là. C'est 80 sur 10 mètres carrés.
OK.
C'est 80 000 melons à l'hectare.
Ben, ça a doublé ça, depuis.
Ça, c'est mon record.
C'est ça, c'est une légende.
OK. viens voir. Je vais te montrer ceux qui sont dans le frigidaire. Je n'ai mangé 3-4. Puis viens voir, là. Puis je te montre 30. Puis c'est une année pourrie pour les melons.
Ouais, moi, un étranger qui me dit, viens voir mes melons.
Mais c'est parce que La première fois que j'ai fait des melons, là, je l'ai mis là, dans terre. Okay? J'ai eu 3 melons le 10 septembre, puis il n'était pas bon. Okay?
Il n'était pas sucré. Là.
Il n'était pas sucré. Okay? Bon. Je mets un plastique noir. Je vais avoir comme... je viens de monter mon rendement de 15%, puis il va être prêt comme 3 semaines plus bonheur.
Parce que ton sol est chaud?
Non.
Parce qu'il n'y a pas de mauvaise
Le sol est un petit peu plus chaud. Je mets un plastique vert. Le sol, il est 5 degrés plus chaud. OK? Là, je viens encore de comme... Là, je viens de monter de 60% mon rendement de melon. Je mets une petite serre en plastique transparent avec des trous dedans. OK? Là, je viens de monter de... Là, je suis rendu à 40 000 melons à l'hectare. Puis j'ai commencé à... Je n'avais comme... 3 000, là. OK, mais à chaque étape que tu intensifies avec de la plasticulture, tu augmentes le rendement. Fait que j'aime bien mieux dire, je vais mettre 3, 4, je vais mettre comme un petit tunnel avec des arceaux. Je vais partir mes plants. Je vais mettre un plastique vert que le sol est beaucoup plus chaud qu'un plastique noir. Puis au lieu d'avoir des trucks qui rentrent de Californie, qui brûle du pétrole anyway, ben je vais prendre mon pétrole pour cultiver du melon local. Il va être super bon, puis je fournis mon marché, là.
Dans le fond, c'est comme...
Fait que donc, moi, la plasticulture, je trouve que ça a sa place. Les filets anti-insectes, ça a sa place parce que on n'a pas de bons insecticides qui marchent bien en bio. Puis même un insecticide qui marche bien en bio, des fois, ça peut déranger des organismes utiles. Fait que ça va être comme un compromis. Peut-être qu'un jour, on va avoir des plastiques faits avec des matériaux naturels. En tout cas, pour l'instant, il y en a des plastiques naturels, mais c'est pas vraiment très bien développé. Fait que pour l'instant, j'utilise du plastique pour intensifier, pour aller chercher beaucoup plus de rendement. Mais j'expérimente plein d'affaires. Moi, la plasticulture, j'en fais depuis... je dirais, depuis que j'ai travaillé en Allemagne dans les années 70, là. Et puis, là-bas, il se faisait beaucoup de plasticulture. C'est une grosse ferme biodynamique. Et puis, j'ai pas peur de me servir de ça pour intensifier parce que tu vas chercher beaucoup plus de rendement si tu sais quoi faire.
Ça, c'est pas okay. Fait du croche, parce que ton jardin, on a l'impression qu'on visite une ferme maraîchère, mais à une dimension...
moi, le trouble que je me donne pour certaines affaires, il n'y a pas grand jardinier amateur qui va se donner du trouble de même. Mais moi, c'est comme, tu sais, je gagne ma vie avec ça. J'essaie des affaires pour comme innover, pour développer des nouvelles façons de faire. Ouais. Les jardiniers amateurs, ils ne se donneront pas ce trouble-là. Là.
Les formats aussi sont pas adaptés à ton contexte de production, là. Ouais, au niveau des outils, là, de la plasticulture.
Ben, c'est ça. C'est qu'installer de la plasticulture, c'est de l'ouvrage. Faire ça à l'échelle d'une ferme avec de la machinerie, c'est plus rapide. Faire ça à main, à petite échelle, c'est plus d'ouvrage. Mais tu sais, il crache le jardin, là. Ce que je peux te dire, là, c'est... moi, je fais... Normalement, là, quand il est en pleine production, j'ai 120 mètres carrés, puis j'en donne, puis... Fait que ça produit, là.
OK. C'est une échelle domestique qui tient, là, à 120 mètres carrés, là?
Ouais, bien, écoute, si tu sais quoi faire, là, tu es capable de produire pour une famille puis d'en donner,
ouais,
là.
Ouais, puis pas acheter de légumes pendant un bon bout de l'année, là.
C'est... Ouais, moi, j'achète... moi, j'étais un gros mangeur de laitue, là, fait que l'hiver, j'achète de la laitue, là, puis pas un gros fan des germinations, ces choses-là, là. Mais sinon, en l'hiver, on achète que crudités, mais j'ai un caveau avec... des patates, des oignons, des poireaux, des radis, des rutabagas, des choux, de l'ail, puis deux, trois autres légumes. Là, c'est que j'ai quand même pas mal de crudités. Puis moi, je mange ce que j'ai quand j'ai. Là, fait ouais. Que maintenant, là, j'aime beaucoup les fraises. Fait que maintenant, dans le temps des fraises, là, je peux manger des fraises 6 fois par semaine pendant 5-6 semaines. Là, après ça, ben des framboises, je n'ai tellement ramassé quand j'étais jeune. Je suis pas un gros fan, mais j'en mange un peu, là. Des bleuets. Puis après ça, quand les melons arrivent, ben là, je mange des melons. Puis, tu sais, je mange ce que j'ai quand je l'ai, là.
Suis les saisons, là. Là, j'hésite à aller vers le livre ou vers les retourner aux engrais verts, puis tout ça.
Les verts, là, cette année, j'ai contacté John Reynolds, qui a étudié les verts au Québec. Il y a un laboratoire... en Ontario. C'est un gars comme moi, là. C'est un gars qui a... Ben, il est plus vieux, il a 80 ans, puis il n'arrête pas, là. Puis il a identifié les espèces d'avers que j'ai envoyées. J'ai... Normalement, tu as 2, 3, 4, 5 espèces dans un milieu donné.
OK.
Moi, j'en ai 10.
Chez vous, ça, dans
ouais,
ton jardin.
C'est pas inédit, mais c'est très rare. Fait que j'ai 10 espèces d'avers qui ont des niches écologiques différentes, complémentaires. Puis même là, je pense que je viens d'introduire deux verres à compost que j'avais
pas. Denis, il est en train, il a vu un verre tomber à terre, puis il l'a ramassé comme si c'était une pépite d'or.
Il a trouvé une craque, là. Fait que ici, là, j'ai pris un sol qui était un pas de sol, un sol sablonneux. Je pense que c'est du sol vient, selon ce que j'ai vu. Puis j'ai mis du compost à dose élevée. Moi, j'ai pas de restrictions agro-environnementales ici, là. C'est un jardin privé. J'ai mis du compost à dose élevée. J'ai mis des micro-chaulages, donc un petit peu de chaud tous les ans. J'ai mis de la cendre de bois, qui contient probablement un petit peu de charbon biochar, mais rien comme les doses de biochar.
À chaque année, la cendre?
Oui. J'ai arrêté il y a à peu près 5 ans parce que mes pH étaient trop élevés. Là, j'attends que ça rebaisse. J'ai arrêté les chaulages. J'avais comme caractérisé mon sol. Je mettais vraiment des petites quantités, mais tous les ans, sauf, là, mettons, l'année des patates. Et puis, donc, il y a une rotation. Fait qu'à tous les ans, j'avais comme 3-24e jardin, pas de chaud, pas de sang. Et puis, j'ai mis de la bentonite, qui est une argile de type montbrillonite, extrêmement fine. Une tonne hectare par année pendant à peu près 20 ans. Puis à un moment donné, j'ai changé le jardin de place, puis là, c'est de la terre argileuse qui a été rapportée. J'ai arrêté d'en mettre. Après ça, j'ai ramené le jardin là-bas. J'ai probablement mis une vingtaine de fois une tonne hectare de bentonite. Puis là, j'ai une grosse population de vers. Alors, mon sol, qui au départ était environ 20 cm d'épais, est aujourd'hui 90 cm d'épais. Wow. Ça, c'est l'horizon de surface.
Ton top soil, là.
Oui, il n'y a personne qui a fabriqué un sol comme ça en 30 ans au Québec, à part moi, là. Puis je pense que tu sais, les éléments de régie que j'ai adoptés, matière, puis à tous les ans, il y avait des engraveurs sur 80% du jardin en fin de saison.
Ouais.
Donc, matière verte, fumier de bovin composté, on fait le meilleur compost au Québec qu'on apporte au cégep de Victo. Cette année, as-tu vu l'analyse?
Non, pas encore.
17 kg d'azote par tonne, puis au-dessus de 20 kg de potasse.
Ah, c'est énorme, hein?
Check tes claques. OK? Fait que, donc, c'est comme on fait un compost exceptionnel. Bien, c'était le compost de l'année passée, là.
Ouais.
Donc, il a fait sec. Le compost est sec. Il est en bas de 50% d'humidité, ce qui rehausse la concentration de nutriments. Mais à force de faire ça, puis, tu sais, c'est les vers et les microbes du sol qui ont fait ça. En combinaison avec les plantes, avec puis mes résidus de culture, là, les gros trognons, tout ça, je mets ça au compost parce que je peux pas gérer ça avec ma petite fourche, là. Fait que, mon système de gestion des sols fait que j'ai un sol excessivement fertile. L'année passée, j'ai mis du sainfoin isolé pour voir de quoi le plant avait l'air. C'est venu d'un mètre de haut. Au CETAB, on a semé à notre ferme. C'est venu ça d'eau, là. C'est venu de 75 cm de haut. Ici, c'est venu d'un mètre de haut parce que le sol est anormalement fertile, là, tu sais. Fait que donc, là, les grands plants d'herbe du Soudan qu'on voit là, c'est pas fertilisé, là, ça pousse juste dans une terre riche, là.
Puis il est vert, ça, ils peuvent pas le voir, mais ils peuvent nous entendre le dire, là, il est vert, là. Tu as parlé de 80% de superficie en engrais vert, c'est beaucoup, parce que souvent on essaie d'enseigner comme le 25 à 50%.
Ouais, mais 80%, c'est rendu au mois d'octobre avant l'hiver. Fait qu'il y a des affaires qui sont longues de même, là,
oui,
t'sais.
Mais chaque planche, comme 80% de tes planches ou tes surfaces cultivables reçoivent un engrais vert durant l'année, là.
Ouais, ben, mais même quand je faisais ça,
ouais,
j'avais probablement 22 planches sur 24 qui étaient en légumes, là.
Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, je n'avais peut-être une coupe que je laissais en engrais vert en rotation. Tandis qu'aujourd'hui, ben, j'en ai 10 sur 24 qui sont en engrais vert.
Pour toute la saison, là.
Ouais, parce que, écoute, je vieillis, puis comme je disais, tu sais, à Ferme-École, ici, il y a des légumes qui s'en vont à la sécurité alimentaire, fait qu'ils me laissent me servir avant que ça parte dans le camion de la sécurité alimentaire, là, tu sais, fait que... Donc, ben, tu sais, il y a des choses que je ramasse là que je ne cultiverai pas. Mais je fais quand même, tu sais, j'ai quand même une bonne partie de mon alimentation encore ici. Puis j'ai comme, tu sais, j'ai 73 ans, je travaille 4 jours semaine, je dois te slacker un peu, là, tu sais.
Le gars de la sécurité alimentaire ne doit pas dire que tu es mal nourri à te voir, là.
Non, non, non.
Mais, puis là, je reviens à ta phrase de De Vinci qui disait qu'on connaît plus les étoiles que le sol, parce que les étoiles, on les observe.
Bien, on met plus, d'après moi, on met plus d'ouvrage à connaître le cosmos que, que les sols.
Mais on le regarde, il nous attire. Le sol, les gens, ils marchent dessus, ils le regardent pas.
Malgré qu'on est rendu à 1000, en tout cas, il y a peut-être 4-5 ans, on était rendu à 1500 publications annuelles sur les mycorhizes.
Ouais, OK.
Fait que, tu sais, ça puis v'là 20 ans, il y en avait 100, là, tu sais. Il y a comme pas mal plus de monde qui travaille sur des systèmes biologiques intelligents. Ils appellent ça du smart farming, là, l'agriculture intelligente. Là. En tout cas, il y a comme beaucoup d'évolution de ça va de l'intelligence artificielle à beaucoup d'ouvrages qui se mettent sur la biologie. Là.
Mais quand tu nous parles d'analyse, mettons, comme dans le cas du compost, on peut faire analyser son sol au niveau de ce qu'il contient, mais ça reste que toi, tu prends des pelles quand tu te promènes sur des fermes ou ici au jardin. Puis tu fais un trou, ce qu'on appelle le profil de sol. Là. Tu le regardes avec tes yeux.
Ouais.
Là.
Moi, je donne des cours de sol que vos clients peuvent suivre aussi. Là. Vous avez le droit de vous instruire. Ça se suit à domicile, puis ça peut se suivre en différé. Fait que tu peux faire ça la fin de semaine si tu travailles la semaine. Là. Bon, là, il faut que tu envoies tes questions par courriel. Là, mais ça s'adresse évidemment à des professionnels. Mais un jardinier passionné, là, tu parles de mon livre, sur la culture biologique des légumes,
ouais.
Ça s'adresse à des professionnels. Un jardinier passionné, il peut s'acheter ce livre-là, puis tu as des chapitres de 10, 15, 20 pages sur 25 légumes. Là, c'est très riche en informations. Là. Ça date un peu, il y a peut-être quelques changements puis des nouveautés qui sont pas là, mais c'est quand même très... Très utile, là.
Oui, mais ça a bien vieilli quand même.
Hein?
Ça a bien vieilli.
Oui, c'est... Oui.
Tu sais, c'est dans un contexte, mais je compare à des livres de serre, qu'au bout de 10 ans, là, les techniques, ça
a tellement changé.
Oui, mais en chant, tu sais, ça reste... Il y a une bonne base qui reste quand même la même.
Oui, je pense que oui.
Ça, c'est aux éditions Berger, ça?
Oui, les éditions Berger, la culture biologique des légumes.
Puis moi, encore, il y a plein de références là-dedans que je me sers à chaque année. Ne serait-ce que... Comment partir les transplants, les semis?
Ouais.
Je suis mieux de prendre une caissette 72-128, puis là, tu as le comparable avec le conventionnel qui dit, ben eux, ils le font en 200, chose que j'ai pas comme outil chez moi. Mais puis en blague aux élèves, des fois, je leur disais, ben tu sais, vous allez prendre un livre de jardinage écologique de base, là, grand public, là, pour en commençant des études. Là. On n'est pas au jardin nécessairement, mais à la fin, vous allez plus utiliser le livre qui est vraiment professionnel, là, tu sais,
ouais.
mais qui s'adapte au jardin. Moi, je l'amène au jardin, le livre. Tu sais, il est plein de terre. Là.
Ouais.
Fait que c'est un ouvrage qui t'a pris quoi, 10 ans à écrire?
Ouais, 14.
14?
Bien, j'ai pas eu de libération. Fait que je faisais ça 200-300 heures par année à faire la recherche puis à écrire. Puis on a fait une première version. Puis après ça, on l'a développé plus. Puis...
C'était pas ta job à temps plein, là.
Non, non, c'est comme... Non, mais j'avais pas de libération. Là, j'enseignais, je travaillais à temps plein, puis je faisais ça comme un prof de cégep qui écrit, là. Les écrivains au Québec, là... C'est ça, je fais mon running gag, c'est à chaque fois que j'en vends 10, ça me paye le char aller-retour pour aller travailler à Victo puis revenir à la maison. Là, c'est payant à vendre des livres.
Mais c'est à mettre dans sa liste de cadeaux de Noël.
Ah oh oui, c'est un bon livre.
C'est un très bon livre, il y a de fier.
J'ai pas honte.
Vous avez l'air de vous aimer tous les deux.
Ben écoute, depuis le temps qu'on se connaît, puis moi je suis jeune, imagine. Mais non, mais ça reste c'est Denis qui m'a amené à travailler au CETAM. Puis ça a changé le CETAM. Hein? On n'avait pas de centre de recherche, une grosse école, des locaux modernes.
Ouais.
Je me souviens du 4e puis du 5e étage.
Au département d'agriculture, bien là, écoute, le cégep vient. Moi, c'est, mon running gag, c'est comme le cégep vient d'investir 20 millions à l'INAB. Je te joue bien pas pour aller jouer aux cartes. j'ai rêvé à ça toute ma vie. Puis tu arrives à l'âge de la retraite, puis tu installes un terrain de jeu comme ça. Là, fait que je lâche pas là.
On l'a, là.
Moi, mon idole, c'est Pierre Dansereau. C'est un des fondateurs de la science de l'écologie. Là. Ils l'ont sorti de son bureau à 94 ans quand il a tombé sénile. Là. Fait que je l'ai rencontré, il avait 86 ans, il dit « On prend un coup de vieux quand nos anciens élèves commencent à prendre leur retraite.
» Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.